Et ce petit bout d'A 69, là, c'était finalement un bout de couloir qui leur manquait peut-être pour aller vers l'Est. Au-delà des enjeux locaux de faire plaisir aux notables du coin et à son usine, on se rend compte, et grâce aux militantes et militantes de l'A 69, que ce que vous avez vécu, en fait, on le vit sur tout le territoire national. Votre histoire, elle n'est pas isolée, c'est partout pareil. Faire des couloirs à camions pour notre chère Europe, au passage, faire plaisir à des marchands de béton, Bouygues, Vinci, Lafarge et compagnie, engraisser les copains, les coquins. C'est pas juste un enjeu local et que votre histoire, elle est emblématique parce que c'est l'histoire de tout le territoire national.
Oui, bien évidemment. Après, on tient à rappeler en fait qu'il faut une autoroute en parallèle d'une nationale qui n'est pas saturée, quoi. C'est de là vraiment que tout est parti, en fait, parce que ça n'a pas de sens d'aller encore abîmer de la terre agricole. On est sur 400 hectares de terre agricole abîmée. Enfin, de la terre agricole, aujourd'hui, il va falloir se mettre à la tête qu'on en a besoin pour se nourrir. Le béton, le bitume, ça ne fera jamais manger personne. Ça remplit les poches de ceux qui le font, de ceux qui le bâtissent, de ceux qui le construisent, des investisseurs, des actionnaires, mais ça n'a jamais rempli le ventre des enfants ou des familles qui habitent en France. Comme tu l'as très bien rappelé, en fait, une autoroute, en fait, c'est pour faire du flux de camions et du flux de marchandises. Ça profite aussi aux quelques voitures qui vont l'utiliser pour aller bosser un peu à droite à gauche. Mais 17 euros l'aller-retour pour 12 minutes de gagné. On tient à rappeler aussi que le coût pour un camion, c'est 60 euros l'aller-retour. Donc, est-ce que les entreprises routières de camions vont le prendre? On n'en est pas persuadé. C'est aussi la porte ouverte à manger encore plus de terres agricoles parce que on sait toutes et tous très bien qu'à partir du moment où vous ouvrez une autoroute, en fait, vous mangez de la terre agricole et vous voyez naître des plateformes comme IKEA, Amazon, Decathlon, j'en sais rien, tous ces trucs-là. C'est vraiment une ouverture permanente, en fait, au grignotage de terres agricoles. Et ça, on n'en a vraiment pas besoin aujourd'hui, quoi. Je le dis, je le répète. On est sur la même problématique sur le canal Seine-Nord. 3 300 hectares de terres agricoles, là, on a encore plus, c'est presque 10 fois plus que la 69.
Le fameux méga-canal.
Le fameux méga-canal, voilà, pour faire passer quoi, au final, des péniches où on va pouvoir mettre 4 ou 5 ou 6 hauteurs de containers que l'on voit sur les camions. Et donc là, une fois de plus, c'est pour aller encore plus vite. On tire des lignes droites, on scarifie le paysage français avec de l'eau qui va droit pour aller plus vite d'un point A à un point B. Et tout ça pour encore transporter de la marchandise qui, pour la plupart du temps, est inutile et consommable. Hein. Si c'est des vêtements qui sont fabriqués à l'autre bout du monde, ben, ce n'est pas des super qualités ou tous ces gadgets. Voilà. Ça, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment faire gaffe à tout ça, quoi. Voilà.
On va faire une pause musicale de circonstance dans cette conversation avec Thomas Braille, avec Paloma, autre écureuil qui a séjourné dans un arbre de l'A 69, au sommet duquel elle a composé des chansons, et notamment celle-ci, où elle s'adresse à l'arbre qu'elle a occupé, un arbre baptisé Noguer.
J'avance sur le fil, je respire et ne me rebiffe, pendant que la CNAMO me renifle, pour en skinant à Oaifil. Je suis en train de jouer au Lego, avec mon vulnérable ego. Je danse nu sur une planche, en aveuglant la lumière blanche. On milite au-delà de nos limites, pour la limite des degrés. Mais on milite avec humilité. Mais on milite avec humilité.
Paloma, l'écureuil chantante, avant de retrouver Thomas Braille, écureuil du GNSA, Groupe National de Surveillance des Arbres. Et on vous le racontait dans un précédent reportage intitulé « Noisettes et les écureuils ». Des écureuils, On en a aussi vu sur la grande mobilisation anti-méga-canal d'octobre 2025 à Longueuil-Anel, dans l'Oise, quand le samedi 10 octobre, quelques grimpeurs et grimpeuses ont accroché une plateforme en palette et une grande bannière dans un peuplier tremble baptisé Noisette par des enfants. Sur la bannière était inscrit « Grimper les centaines d'arbres menacés, danser, ça, on ne pourra pas nous l'enlever, occuper les 107 km de terre bientôt artificialisées ». On le rappelle, hein, avec ses 3300 hectares de terre stérilisées, le méga-canal est un projet écocidaire, doublé d'un scandale financier à au moins 10 milliards d'euros d'argent public. Or, dès le dimanche 11 octobre, des gendarmes et des policiers de la CNAMO, Cellule Nationale d'Appui à la Mobilité, la police des arbres quoi, sont intervenus pour faire tomber plateformes et bannières. Et comme on vous le racontait dans le reportage, des scènes stupéfiantes ont alors eu lieu, notamment quand des écureuils se sont adressés à des policiers de la CNAMO en les interpellant par leur prénom.
Alors comment ça va la CNAMO ? Oh la CNAMO, les piétons ! Marius, tu vas apprendre à grimper ! Marius, comment ça va ?
Oh Marius, on pourra récupérer la banderole !
Oh Marius, viens pas dire bonjour ! Oh Max, Marius !
Allez la CNAMO, soyez cool, rendez-nous la banderole !
T'as fait ta photo, rends la banderole maintenant !
Je viens la chercher moi-même si tu veux ! Comme ça on se dira bonjour ! Allez Max, sois cool, rends-nous la banderole !
Ça va Marius, tu passes un bon dimanche ? Il sert à quelque chose ton dimanche, t'aurais pas préféré être en famille ? Tu vois l'échelle que t'as dans la main, tu te rappelles, c'était la même à la Calandre il y a un an !
Là où t'as failli tuer des gens !
Les deux là qui ont passé un an avec un corset ! Les vertèbres fracturées !
Cassez-vous, cassez-vous, cassez-vous. Ils n'ont pas inventé les chamallows ICO. C'est la CNAMO. Quand ils montent, on a froid dans le dos. À chaque instant, on risque notre peau.
Bonjour, je te vois porter ce porte-voix. Tu es la personne qui...
C'est Nacho, j'étais un écureuil de la 69 du GNSA, le groupe national de surveillance des arbres, en fait, monté par Thomas Braille. J'ai fait plusieurs luttes avec le GNSA et en fait c'est une méthode de militantisme qui nous permet de monter dans les arbres. On est des grimpeurs professionnels, on monte dans les arbres et en fait on construit des cabanes pour éviter qu'on les coupe. Et ça, ça fait venir une brigade, la brigade à qui je parlais justement, que je tutoyais, tout ça parce que je
les fameuses CNAMO.
Voilà, la CNAMO que je connais par leur propre prénom parce qu'on se connaît. En fait ils sont là pour... ceux qui s'armloquent, ceux qui s'accrochent dans les arbres, ceux qui se mettent en danger, mais ils sont la plupart du temps plus dangereux. Parce que sur la 69, ils ont fait tomber 7 camarades à moi, dont plusieurs qui sont restés plus d'un an en corsaire. Et il y en a encore qui ont des séquelles, et voilà. C'est une brigade qui est très dangereuse, qui agit très mal et très incompétente. Moi qui est professionnel de grimpe, qui les trouve vraiment très incompétents au niveau grimpe. La preuve, ils utilisent une échelle, vous avez bien vu.
Ils n'ont pas inventé la tarte aux poireaux, ICO, c'est la CNAMO. Ils sont la risée de quelques écolos qui leur dressent le majeur bien haut.
C'est toujours la même brigade qui intervient sur toute la France. J'ai fait la 69, la LGV Toulouse-Bordeaux, le parc des dinosaures à Trévoux, c'est moi qui ai remporté la lutte avec Thomas Braille. J'ai fait Lyon-Turin, je fais à peu près toutes les luttes, grand contournement de Valence, là où ils étaient la semaine dernière et qu'ils ont fait tomber une copaine à moi qui était sur une tyrolienne. Ils ont carrément coupé la tyrolienne et elle était dessus. On imagine un peu la chute. Ouais, ils ont des méthodes barbares et on les connaît, c'est toujours les mêmes. Toute mère, il n'y a qu'une seule brigade en France, ils sont 18 et on les connaît par cœur.
Que des hommes ?
Que des hommes, ouais. Ils ont, je pense, l'intention de recruter des femmes parce qu'ils se sont retrouvés sur la 69 avec des femmes qui se sont mis nues complètement, en fait. Et ils ne pouvaient pas les toucher et tout ça. Et là, je pense qu'ils sont en train de recruter, mais...
Ils n'ont pas inventé les poches au manteau, ICO, c'est la CNAMO. Ils sont rouges comme des alcoolos, à force de nous mater de bas en haut.
Quoi, tu envisages de pouvoir te mettre nu toi aussi ?
Bah moi ils viendraient m'attraper quand même, mais après moi ils me connaissent parce que bon, vu que je suis sur toutes les luttes, ils m'ont considéré là à mon dernier jugement que j'ai eu début août à Compiègne.
Ils vous ont de vite décroché d'ailleurs.
J'étais pas dans l'arbre quand ça s'est passé, mais mes copains y étaient parce que bon, moi je les ai aidés à monter dans l'arbre et après moi je fais ma vie, je me repose un peu aussi quoi. quand je suis arrivé le lendemain, il y avait les journalistes. Je montrais aux journalistes comment on grimpe, tout ça. C'était juste une action de communication. On n'allait pas occuper les lieux devant, en plein centre-ville de Compiègne, quoi. C'était juste pour informer les gens. On avait prévenu, tout ça, ils étaient au courant. Sauf qu'eux, ils ont voulu sortir les grands moyens. Et là, ils ont déployé la CNAMO. Et la CNAMO, vu qu'ils me connaissaient, moi, ils ont décidé de m'interpeller, moi, tout de suite au sol, alors que j'étais au sol. Ils ont considéré que j'étais le leader d'Agiprop. L'Agiprop, c'est une façon festive de faire la révolution. Du coup, même le procureur, il a dit, bon, bah non, j'ai rien contre vous, je vais pas faire de procès contre vous. Il a pas fait de procès, et puis voilà, quoi.
Il semble même que les policiers compiénois étaient eux-mêmes sidérés de la débauche de moyens policiers.
Policiers, ouais, tout à fait. Nous, le commissaire de police, on le connaît, on le voit assez souvent parce qu'on fait pas mal d'événements sur Compiègne. Et il le dit, quoi, bah, vous êtes des personnes gentilles, on n'a jamais de problème avec vous, on ne comprend pas pourquoi on met autant de démesures comme ça contre vous, on ne voit pas ce qui se passe, parce qu'ils savent très bien qu'on s'attaque à des projets. En fait, moi j'ai une phrase, c'est quand vous mettez un banquier à la gestion d'un gouvernement, c'est comme mettre un alcoolique à la gestion d'une cave à vin. Lui, il est là pour faire du fric, en fait. Tous les vieux projets de 30 ans, comme que ce soit l'autoroute A69, la LGV Toulouse-Bordeaux, la LGV Lyon-Turin, le grand contournement de Valence, tous ces projets-là, en fait, si vous voulez, c'est des projets qui ont été enterrés il y a 30 ans, que Macron, lui, a dépoussiéré. Pourquoi ? Parce que ceux qui ont financé sa campagne électorale, c'est NGE, Bouygues, Vinci, et ils leur rendent service en leur offrant ces chantiers-là. Voilà, tout simplement. Il y a un documentaire qui est super, c'est Off Investigation, les dessous de la 69. Et là, vous allez voir, il y a tout le système financier de Macron payé par Atos, Rothschild, tout ça. C'est impressionnant, en fait.
Accessible sur YouTube, hein, et c'est remarquable.
Ouais, c'est ça, on peut le trouver facilement, même sur leur site. C'est même passé à la télé, je crois. Hein. Tout le monde est au courant.
Ils n'ont pas inventé la pêche au gros ICO. C'est la CNAMO. Pour les qualifier, je n'ai que des gros mots, mais je les garde pour les généraux.
Depuis la 69, les écureuils du GNSA connaissent suffisamment bien les policiers de la CNAMO pour les interpeller par leur prénom, Thomas.
Oui, après, c'est vrai que j'ai pas la même approche, peut-être un petit peu, que toutes les personnes qui luttent avec les forces de l'ordre. Alors, je dis pas qu'ils font que de belles choses, hein, parce qu'on assiste à des choses parfois qui sont assez terrifiantes. Même moi, j'ai pris des coups de matraque, voilà.
En hauteur ?
Pas en hauteur, non. J'étais au sol, ça c'était pour la 69. Mais en fait, moi, là où je suis vraiment intéressé, et là où je pointe vraiment du doigt, c'est les donneurs d'ordre, en fait. C'est les personnes qui les envoient sur le terrain pour nous faire subir ça, en fait. C'est après eux, moi, que j'en ai, en fait. Après, bien entendu, je dis pas qu'ils font que de belles choses. Je pense qu'il y en a qui sont contents d'aller peut-être casser de l'éco-terroriste, comme ils disent, mais je ne pense pas que ce soit la grande majorité de ces personnes-là qui soient contents d'aller faire le travail qu'on leur demande. Je pense qu'il y en a qui doivent être atterrés de voir qu'au final, ben, on se bat pour finalement les mêmes choses, on se bat pour leurs enfants et qu'on les envoie sur des terrains d'action qui, je pense qu'ils préféreraient aller peut-être arrêter les narcotrafiquants ou peut-être s'occuper d'autres choses que de venir nous embêter à nous. Ça, c'est ma philosophie. Après, tout le monde ne la partage pas, je peux arriver à le comprendre. Mais oui, bien sûr qu'on se connaît avec ces gens-là, on fait le même métier qu'eux. On a des mousquetons, on a des baudriers. Quand j'étais à Vendigne il y a 2 ans, je connais le chef de cette section. Voilà. J'ai discuté avec lui, on a le même âge. J'ai échangé sur plein de choses avec lui. Bien évidemment, il était dans le dialogue pour essayer de me faire descendre. Ça n'a pas été le cas, je suis resté là-haut. Pour avoir un peu compris intérieurement ce que lui pensait, il a 51 ans, j'ai 51 ans. Je pense que je pourrais avoir un discours avec lui autre que sur un terrain d'action et je pense qu'on pourrait avoir des points communs et se retrouver sur des propos qui au final sont les mêmes, quoi, sur les enfants, sur qu'est-ce qu'on laisse comme planète à nos gosses. Et après, bien évidemment, comme je dis, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Il y a des, je pense qu'il y a des gens bien, il y a des gens mauvais et je pense qu'il y en a un peu partout, des gens bons et des gens mauvais. Je n'arrive pas à me dire que tous les flics, ça pourrait être des cons, quoi, parce que je pense que ce n'est pas possible, quoi. Moi, j'ai discuté avec des gendarmes qui comprenaient. J'en ai même qui ont fait des selfies avec moi en me disant que c'était pour leur fils parce que leur fils aimait ce que je faisais. Voilà, donc tu vois, c'est tout le paradoxe de ça, en fait. Moi, je vis des choses parfois avec les forces de l'ordre qui sont aux antipodes de ce qu'on pourrait peut-être penser, de dire que c'est tous des pourris. Bien sûr, il y a des pourris, oui, il y a des cons. Il y en a qui ont envie de nous taper sur la gueule, mais il y en a d'autres qui n'ont pas envie forcément de ça non plus, quoi. Voilà, quoi.
Il peut y avoir recours quand même à des méthodes extrêmement violentes. J'ai entendu parler d'une copain écureuil qui était sur une tyrolienne et la corde a été tranchée et elle s'est blessée. Il y a des chutes à 6, 8 mètres.
Oui, oui, mais tout à fait. Mais après, je remets rien en question là-dessus. Le gars qui a coupé la corde, pour moi, c'est un idiot. Il n'a rien à faire chez les forces de l'ordre, celui-là, par contre. Voilà, je le dis clairement. On ne coupe pas la corde, on ne met pas les gens en danger. Le but des gendarmes, c'était la veuve et l'orphelin, il me semble, quand même, à la base. C'est ça, c'est défendre la veuve et l'orphelin. On ne coupe pas la corde de quelqu'un, qu'il soit contre un projet ou pour ou contre, ou je ne sais rien. On ne coupe pas la corde de quelqu'un qui est accroché. En plus, c'est leur métier, ils savent très bien que si on coupe une corde, ben on va au tas, quoi, direct. Donc non, là, bien sûr, ça, je le condamne profondément. Mais voilà, ça fait partie, comme je dis, de ces personnes que ça ne dérange pas de casser du militant ou je ne sais rien. Voilà, ça, c'est compliqué, bien sûr.
Je reviens sur la 69. Ce qui a donné 6 mois de sursis au chantier, c'était le fait de pouvoir filmer une mésange qui nichait. Or, la mésange, elle est protégée. Donc, l'image et le regard de ce qu'on appelle l'opinion publique, c'est extrêmement important. Et un de tes camarades écureuils expliquait aussi que une manière de les faire reculer, c'était de se mettre soi-même en danger. Alors, cette règle un peu absurde de on s'arrime à une branche qui est en principe grosse comme la cuisse, ce qui ne veut rien dire parce qu'il y a des arbres plus cassants que d'autres. Et le camarade expliquait que quand la police des arbres, quand la CNAMO est là, grimper un peu plus au sommet et s'arrimer à des branches qui sont plus grosses comme une cuisse, mais comme un avant-bras. Et le fait de se mettre soi-même en danger, que ce soit potentiellement filmé.
C'est la stratégie que moi aussi j'utilise depuis le début. C'est-à-dire que j'ai toujours dit aux grimpeuses et aux grimpeurs, si vous sentez que ça sent mauvais, vous montez plus haut, vous vous détachez. Normalement, quand on se détache et qu'on monte plus haut, on n'est plus en sécurité. Donc, l'idée, on ne devrait même pas avoir à faire ça parce que c'est très dangereux déjà et d'une, mais...
C'est des coups à se tuer ou devenir hémiplégique.
Oui, oui, bien sûr. Mais après, ce qui fait la force aussi de notre action, c'est que moi, depuis le début, j'ai toujours filmé ce que je faisais, en fait. Et maintenant, on a la possibilité de faire du live, en fait. Du live sur des comptes comme Instagram. Et à partir du moment où on se met en live, c'est sûr que les gens peuvent suivre... Il n'y a rien qui ment, là. Il n'y a pas de fake news, il n'y a rien qui est montré, il n'y a pas d'image fausse. On est en direct, on filme. Et à partir du moment où on est en direct et où on filme, tout le monde s'arrête en fait. Parce que là, la moindre erreur, elle est fatale pour celui qui l'a faite. C'est le mode d'action du GNSA, le groupe national de surveillance des arbres. Voilà. Donc d'autres l'utilisent maintenant et tant mieux. Ça paye, c'est efficace et tant mieux en fait. Nous, on n'a pas d'armes en fait, on n'a rien. Notre seule arme, ce sont nos cordes et nos téléphones. Nous, on est dans la non-violence, je parle pour le GNSA, on est vraiment dans la non-violence. On essaye de faire comprendre les choses par non-violence. On y arrive, on n'y arrive pas. Mais en tout cas, c'est notre façon de faire. On fait du mieux qu'on peut, quoi. Voilà.
La 69, ça n'a pas forcément été facile aussi entre militantes et militants, parce que construire une lutte avec des gens qui viennent de partout, qui n'ont pas forcément les mêmes analyses politiques, etc. Je me suis laissé dire que ça pouvait être un peu rugueux aussi, même entre zadistes, si j'ose dire. Donc voilà, il y a eu des choses tendax, mais est-ce qu'il y a aussi eu des belles choses ?
Oui, moi j'ai quand même envie de dire qu'il y a plus de belles choses que de mauvaises choses dans une lutte. Bien évidemment, on rencontre des personnes de tout horizon qui ont des pensées toutes différentes. Je pense quand même qu'il y a un respect mutuel entre les uns et les autres. Après, quand il y a des tensions, moi comme j'ai toujours dit, moi je suis dans le dialogue. Parfois, on m'a un petit peu critiqué sur certaines choses.
Trop conciliant, trop légaliste, trop républicain.
Après, c'est bête, mais je vais avoir 51 ans. Tout ça, je ne connaissais pas, moi, tout cet univers-là, en fait. Des ZAD, j'avais jamais côtoyé de ZAD, je ne savais pas ce que c'était, en fait. Je n'avais jamais percé vers ce milieu où vraiment on est au contact, et vraiment on est sur les zones d'action, les zones à risque. Moi, tout ça, je ne connaissais pas avant la 69. J'avais fait des actions pour sauver des arbres, mais ça n'avait rien à voir de ce que vraiment une lutte. J'ai mis le nez là-dedans, je sais aujourd'hui ce que c'est que l'odeur des gaz lacrymogènes, je sais tout ça, mais... Je ne l'ai pas fait par envie, je l'ai fait par nécessité, en fait, quoi. Et du coup, on se retrouve face à des personnes, parfois qui sont plus jeunes, qui ont une autre façon de penser, des modes de vie et de pratiques que moi, je ne connaissais pas.
Plus radical, tu entends.
Oui, ouais. Bien sûr, mais aussi plus radical. Mais je ne suis pas dans la critique du radical. Je pense qu'il faut tout dans une lutte, sinon on n'avance pas, quoi. Mais moi, il y a des choses que je ne sais pas faire et qui font très bien. Et peut-être qu'il y a des choses que nous, on fait et qu'ils ne savent pas faire aussi. Parce que grimper dans les arbres, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Mais en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que même s'il y a eu des moments de friction, toutes ces personnes-là que je côtoie, en fait, de toutes les associations différentes, quelle qu'elle soit. Tout ça, pour moi, c'est aujourd'hui, c'est une vraie famille, en fait.
Y compris les vilains Black Bloc, éco-terroristes.
Franchement, qu'est-ce qui est vilain, quoi, aujourd'hui, voilà.
Vous avez bien compris la caricature absurde.
Mais bien entendu, après, les Black Blocs, ils risquent tellement qu'il vaut mieux qu'ils soient masqués. Je ne peux pas arriver à le comprendre. Enfin, en tout cas, moi, voilà, ces gens-là, je comprends aujourd'hui la lutte qu'ils mènent. Je comprends que tous ces jeunes-là, aujourd'hui, ils n'ont plus trop espoir à la politique. Ils voient qu'ils n'ont plus forcément trop d'avenir. Faire des études, pourquoi? Ben, moi, j'aurais leur âge aujourd'hui, je me demanderais, je me poserais peut-être la question. Et je serais peut-être aussi à leur place, peut-être plus radical si j'avais 20 ans aujourd'hui. Parce que quand on ne vous offre pas d'avenir, quand le gouvernement a démissionné, ben, en fait, c'est quoi leur avenir à ces gosses au niveau professionnel, au niveau familial? J'entends beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne veulent pas d'enfants. Alors moi aussi, j'en voulais pas, c'est arrivé par hasard. Et puis je trouve qu'aujourd'hui, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Mais je peux arriver à comprendre des gamins qui disent « je ne veux pas d'enfants » pour les amener vers quoi et vers où, en fait. Et donc tout ça, bien sûr que ça participe à... Ils ont un mental aujourd'hui qui n'est pas le nôtre parce qu'il n'y a rien de drôle et tout est noir, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je me sens vraiment en famille quand je vais sur les terrains de lutte parce que je pense qu'on est une infime minorité à lutter pour qu'une grande majorité en profite. Et moi, je suis toujours reconnaissant de cette infime minorité de gens éveillés, contrairement à cette grande majorité qui est un peu endormie, quoi. Voilà.
Évidemment, il n'y a pas de recette magique ou de méthode pour une lutte. Hein. Chaque lutte s'invente, comme vous avez inventé votre lutte sur la 69. Est-ce à dire, malgré tout, que sur une lutte, il y a toujours besoin de ce qu'on appelle un rapport de force? Je ne dis pas un besoin de violence, je dis un rapport de force. Oui, à Sainte-Soline, il y a une fourgonnette de gendarmerie qui a pris feu. Faut probablement un cocktail Molotov. Mais enfin, sinon, j'ai vu ces gens se battre avec des cailloux, des mottes de terre, éventuellement des pétards. Est-ce à dire que pour que des représentants des institutions puissent avoir un dialogue, il faut des Julien Leguay, il faut des Thomas Braille, et que en fait, ce dialogue il ne peut exister que parce qu'il y a des gens qui ont eu le courage de proposer un rapport de force? Est-ce que le rapport de force est, hélas, nécessaire et inévitable pour se faire entendre?
Parfois, on nous reproche d'être un peu trop mis en avant, mais... Moi, je n'ai pas voulu être mis en avant au début. Ce n'est pas quelque chose que j'ai programmé. Je suis monté dans un arbre parce qu'il était en danger. Et de là, tout est parti. Et de là, les micros se sont tendus. Je suis conscient aussi que le fait qu'on mette des visages en avant, il faudrait que ce soit tout le monde qui soit mis en avant. Mais c'est sûr que les médias, quand ils arrivent, il faut bien qu'ils parlent à quelqu'un. Et tout ça, c'est assez compliqué. Mais le rapport de force, bien sûr, qui doit y être obligatoirement. Sinon, c'est la porte ouverte à faire encore des choses complètement indécentes et continuer à défoncer le vivant. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait des rapports de force, et heureusement qu'il y en a. On doit représenter peut-être ces personnes-là. Moi, je fais en sorte de donner de plus en plus la parole à des représentants du GNSA. Il y a des antennes locales qui se créent. Le fait de créer des antennes locales, c'est justement pour qu'il y ait d'autres personnes qui, sur des lieux un petit peu partout en France, soient des lanceurs d'alerte. Ils deviennent les yeux et la bouche du GNSA. Et l'idée, c'est pas que moi je sois toujours mis en avant, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de mettre de nouvelles personnes pour qu'à un moment donné, nous on puisse s'extraire et que le GNSA puisse continuer à vivre sans qu'il y ait toujours les mêmes personnes au micro.
Et puis hélas, dans la lutte, le fait que certaines soient en avant et soient les porte-parole et soient ceux qui prennent la lumière et les coups et les assignations au tribunal, ça permet aussi à des camarades de rester plus dans la discrétion et plus dans l'ombre. On parlait d'espèce parapluie tout à l'heure, le porte-parole ou la porte-parole, c'est aussi un parapluie pour les autres.
Faut pas se leurrer non plus, la médiatisation, elle nous protège. Moi, je pense que si j'ai eu peut-être aussi au tribunal une relaxe pour état de nécessité climatique, ce qui est très rare, je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que, aussi, je fais du bruit médiatiquement aujourd'hui. On est sur les réseaux sociaux aussi. Plus on a de followers aujourd'hui, ça veut dire enfin, toutes ces personnes-là qui nous suivent sur les réseaux, plus on a une légitimité au niveau des médias et on a aussi une légitimité par rapport à l'opinion publique et le travail que l'on fait. Tout ça, ça nous protège. Il ne faut pas se leurrer, quoi. Et cette légitimité, quand on l'a, cette protection, quand on l'a, en fait, il faut, comme tu l'as dit, on est des espèces parapluies. Ça veut dire qu'il faut que l'on aille prêter main forte à toutes ces jeunes et ces jeunes qui luttent et qui, eux, n'ont pas cette protection médiatique. Donc, il faut aller les aider. Il faut porter notre voix et dénoncer. C'est pour ça qu'on est un peu partout, à droite, à gauche, quand on nous demande. Parce que, quelque part, on est un peu écouté quand on parle. Mais du coup, on doit aller porter la voix de ceux qui n'ont pas cette écoute, quoi. Et ça, c'est vraiment primordial. Si c'est pour rester chez soi, être connu, médiatique, et rester chez soi et plus rien foutre, enfin, ça ne sert à rien, quoi. Tout ça, c'est perdu, quoi, pour la lutte, quoi. Voilà.
la joie dans la lutte, est-ce que ça fait partie du moteur aussi? Est-ce que vous avez connu des moments de fraternité, de sororité, d'adelphité, de joie entre vous pendant cette lutte? Est-ce qu'il y a eu aussi des moments où vous vous êtes tenu chaud, où vous vous êtes fait rire? Oui. Je m'excuse, ça paraît un peu déplacé au vu de la gravité de ce qu'on dit, mais est-ce que c'est important en fait?
Oui, la Voix Libre, c'est le collectif emblématique qui lutte contre la 69. Ce collectif, La Voix est libre, en fait, ce que j'aime, c'est qu'ils ont toujours des idées novatrices. Quand il y a des manifestations, alors c'est cumulé maintenant avec les soulèvements, avec XR et tout. En fait, ces manifestations, elles se font dans la joie et dans la bonne humeur, pour faire un petit pied de nez aussi à cet état qui, moi, je trouve un petit peu noir. Ils nous assombrissent l'avenir du matin au soir. Et donc, nous, on n'a pas envie de ça. On a envie de montrer à la population qu'on peut lutter dans la joie. L'autre fois, il y avait eu... une course de bolides fabriqués avec des bananes, un petit peu comme dans Mario Kart sur le tracé de la 69. C'était assez drôle et assez rigolo. Heureusement qu'il y a des moments de joie. En fait, c'est le yo-yo émotionnel. Hein. Les luttes, c'est un coup ça va, un coup ça va pas. Quand on nous apprend que le 27 février, le tribunal administratif annule la 69 pour raison impérative d'intérêt public majeur, bien sûr qu'on a sauté au plafond. Enfin, moi, j'ai pleuré, quoi. J'ai pleuré, j'ai appelé ma mère, du coup. J'ai appelé mon fils, même s'il était petit, j'ai voulu lui parler. Et voilà, il y a des hauts, du haut, et puis après, ben, on retourne un peu down, parce que voilà, et puis à nouveau, on verra. C'est... De toute façon, la vie, elle n'est pas linéaire. Hein.
Je t'avoue, moi, qui m'est arrivé en regardant la télévision il y a quelques mois de ça, il y avait interviewé à la télévision, dans un journal télévisé, un pro 69 qui a osé dire, vous vous rendez compte, on a commis un crime écologique pour rien. On n'a quand même pas fait tout ce mal pour rien. On va s'en servir de cette route qui nous a coûté un massacre écologique. Mais maintenant qu'on l'a fait...
C'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui tiennent un peu aujourd'hui ce discours. Ils continuent à avancer pour faire basculer les personnes du territoire, pour les raccrocher à leur cause de cette autoroute qui n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça commence à être fait, que c'est bien attaqué, c'est bien avancé, ouais, les gens ils se disent bah, « maintenant on ne va pas le laisser comme ça, tant pis, c'est trop tard, c'est fini ». Et en fait, c'est contre ça qu'on se bat aujourd'hui. Moi, je dis toujours, si demain, ces gens-là, ils voient que leur maison commence à brûler, commence à avoir un petit feu dans la cuisine, vous avez la possibilité de l'éteindre. Est-ce que vous l'éteignez ou est-ce que vous laissez brûler votre maison entièrement, en fait? En fait, c'est exactement le même principe avec la 69. Est-ce que c'est parce que c'est commencé, on l'arrête ou on le continue? Ben moi, je suis désolé. Tant qu'il n'y a pas les voitures qui polluent, tant qu'il n'y a pas les camions, tant qu'il n'y a pas toutes ces nuisances sonores, tant qu'il n'y a pas tout ça... Tant qu'il n'y a pas le bitume qui est coulé, tant que les usines à bitume ne sont pas construites et qu'elles ne vont pas déverser des substances chimiques dans l'air qui sont très proches de certaines écoles et de crèches, de villages aussi, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête? Moi, je pense qu'il faut arrêter. Ce projet-là, on peut le voir différemment. Il y a un autre projet qui a été proposé, le projet Une Autre Voie. Alors, ce n'est pas qu'une piste cyclable parce que tout le monde est en train de dire « oui, mais on ne va pas faire du vélo là-dessus ». Non, ce n'était pas ça l'idée. L'idée, c'est de regagner ces terres agricoles, de faire des jardins potagers, des jardins ouvriers, de planter des vergers, de faire des zones où on va pouvoir faire du transport en commun, remettre en route les transports en commun, le ferroviaire aussi. Donc, il y a plein d'autres alternatives qui sont proposées. C'est pas parce que c'est attaqué qu'on peut pas faire autre chose avec, quoi. Voilà.
On va se refaire un petit coup de Paloma avant la conclusion de cette conversation.
Un parc autour d'une maison, une famille, un petit garçon qui court tout nu dans le jardin, sur la terrasse, les copains. Dans la chaleur d'août, la fête passons plein autour des jeux d'eau, des rires, des cris, des bons mots, des artistes et des bons gâteaux. Sur un mur, une fresque immense, un tractopelle qui avance. Derrière eux, les sourires inquiets, chacune attend les bulldozers, entend les CRS pervers, on se prépare depuis mai. Ce septembre avance en silence, quand Alexandra rend les clés, il n'y a plus ni chant ni danse, les écureuils sont montés. Sur un mur, une fresque immense, un tractopelle qui avance. Alors un nain, les pruniers, les tilleuls. tilleuls et les marronniers, cerisiers, platanes et frênes, tétés tronçonnés sans peine, mais avec peine. Sur un mur, une fresque immense, mais un vrai tractopelle avance, mise en abîme réaliste, un jour les automobilistes pourront rouler dans les deux sens.
Il n'y a pas que Paloma qui est rentré de la 69 avec des idées de spectacle. Thomas Braille monte toujours dans les arbres, mais aussi sur des planches de théâtre ou de bandes dessinées.
J'ai toujours fait un petit peu de théâtre, j'ai fait beaucoup de musique, hein. Ça fait 30 ans que je fais de la musique. Moi je suis chanteur-guitariste, on faisait du rock à l'époque, voilà, Led Zeppelin, les Doors, Jimi Hendrix, tout ça quoi, enfin, on se régalait de jouer tout ça. Quand on a cette chance, je pense, de toucher un petit peu au métier de l'art aussi, il faut s'en servir quoi. Et là, c'est ce qui est en train de se passer avec un spectacle qui s'appelle Éloge de la forêt, que Patrick Scheder a eu l'idée